Le journal présenté par Benjamin Delisle.
Bonsoir à tous. L'Espagne a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a choisi une équipe résolument pro-européenne et majoritairement féminine. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni envoient une lettre commune aux États-Unis. Les trois pays implorent Washington d'exempter de sanctions leurs entreprises implantées en Iran. En France, faut-il instaurer un revenu de base ? 13 départements proposent d'expérimenter la mesure alors que le gouvernement veut revoir le dispositif actuel d'aide sociale. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde. Et puis le Conseil d'État annule un arrêté du maire de Béziers, Robert Ménard. Il imposait un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans certains quartiers de la ville. Au lendemain de l'annonce par Mariano Rajoy de son départ de la vie politique espagnole, le nouveau Premier ministre, le socialiste Pedro Sanchez, annonce un gouvernement pro-européen et majoritairement féminin. On retrouve tout de suite à Madrid notre correspondant Mathieu de Taillac, bonsoir.
Bonsoir Benjamin.
Ce gouvernement, c'est d'ailleurs le gouvernement le plus féminin que l'Espagne ait connu.
Oui, effectivement, 11 ministres femmes sur 17, ça fait 63% au gouvernement, si j'ai bien calculé. C'est clairement l'un des plus féminins au monde. Les femmes sont nombreuses et ce n'est pas cosmétique, car en plus elles occupent des postes clés. La vice-présidente du gouvernement, autrement dit la numéro 2, s'appelle Carmen Calvo, et elle sera également ministre de l'égalité homme-femme. Cela confirme donc l'agenda féministe de Pedro Sanchez. Parmi les autres femmes puissantes du gouvernement, la ministre des Finances, mais aussi et surtout celle de l'économie, Nadia Calviño, elle était jusqu'alors directrice générale du budget à la Commission européenne. Donc c'est probablement un signal envoyé aux partenaires européens et aux marchés. Les comptes seront bien tenus. Autre signe de l'engagement pro-européen du gouvernement, la nomination aux affaires étrangères de Josep Borrell. Il avait été président du Parlement européen. Et puis sur le terrain très compliqué de la question indépendantiste, c'est encore une femme, Meritxell Batet, qui était nommée à la politique territoriale. C'est une catalane. Elle défend l'option fédérale, une sorte de troisième voie entre le statu quo et l'indépendance. Enfin, il faut signaler ce qui ressemble à une erreur de casting. C'est malheureusement le ministre de la Culture et des Sports dont on parle, Maxime Huerta, un journaliste, écrivain, collaborateur habituel d'émissions de télévision People et auteur de tweets, on va dire, de très mauvais goût, dans lequel il a par exemple insulté un indépendantiste, ça ne fait pas très ministre. Il a dit son mépris pour le sport, ça tombe mal pour le responsable de ce domaine. Ou encore, il a commenté l'anatomie d'une présentatrice, ça fait au moins mauvais genre pour un gouvernement féministe.
Merci Mathieu de Taillac. Que vous étiez en direct depuis Madrid. En Italie, le gouvernement populiste de Giuseppe Conte prend officiellement ses fonctions. Après le vote du Sénat hier, c'est aujourd'hui le Parlement qui lui a accordé sa confiance. Et à peine nommé, le Premier ministre italien doit s'envoler pour un sommet international important, le G7, qui se tient au Canada vendredi et samedi. Emmanuel Macron doit d'ailleurs arriver en ce moment même à Ottawa. Il doit y rencontrer Justin Trudeau avant le début du G7. Les deux chefs d'État discuteront du principal sujet du sommet, la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis en taxant les importations d'acier et d'aluminium de ses alliés. L'Union européenne a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que des mesures de rétorsion contre Washington entreront en vigueur dès juillet. Autre sujet qui fâche les Européens, la question des sanctions américaines contre l'Iran. Ce matin, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont fait un courrier commun pour demander aux Américains d'exempter les entreprises européennes des sanctions à venir, Nathalie Charbonnier.
C'est une lettre en forme de bouteille à la mer car il y a peu de chances pour que l'administration américaine ne revienne sur sa décision de sanctionner les entreprises qui commercent avec l'Iran. Mais elle a le mérite de montrer l'union des Européens dans ce dossier. Dans ce courrier, la France, l'Allemagne et l'Angleterre rappellent qu'elles sont signataires de l'accord sur le programme nucléaire iranien. Et à ce titre, les trois pays demandent à échapper aux sanctions. Et les trois ministres de préciser les choses. Pas de sanctions pour les entreprises qui ont recommencé de commercer avec l'Iran après la signature de l'accord de 2015. Pas de sanctions pour les secteurs de l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, sont visées en France les sociétés Total, PSA et Airbus. Pas de sanctions et des délais afin de laisser du temps aux sociétés qui ont décidé de partir du marché iranien ou encore que soient maintenus des canaux visant à faciliter les transactions financières avec l'Iran. La lettre datée du 4 juin a été envoyée au secrétaire d'État américain Mike Pompeo ainsi qu'au secrétaire américain au Trésor.
Le gouvernement cherche-t-il à réduire les aides sociales? C'est ce qu'aurait été demandé à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, selon le Canard enchaîné daté de ce jour. Il n'est pas question de faire des économies sur les plus vulnérables, répond l'intéressé qui dément ces informations. Elle qualifie tout de même l'actuel dispositif de maquis injuste et illisible, sans pour autant que les propositions du gouvernement à ce sujet soient particulièrement claires. Pour sortir de ce maquis, 13 départements ont eux proposé un outil qui rassemblerait toutes les aides sociales, le revenu de base. Notre invité préside l'un de ces départements, la Gironde. Jean-Luc Glaise, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce climat tendu autour des aides sociales, avec ces menaces d'économie drastiques, ne craignez-vous pas que cela menace votre proposition ?
Je crois au contraire qu'elle entre pleinement en convergence avec l'actualité du moment sur la question des aides sociales, des prestations. Nous avions l'ambition de proposer un modèle sérieux, scientifiquement défini, et nous avons travaillé pour cela, notamment avec l'Institut des politiques publiques, de manière à tester, à expérimenter ce modèle et voir si nous pourrions trouver de meilleures solutions en matière de protection sociale, puisque nous jugeons, en tant que responsables notamment du RSA dans les départements, nous jugeons que ce modèle aujourd'hui a atteint ses limites.
Vous avez soumis ce projet à une consultation citoyenne. Qu'en est-il ressorti et quels seront donc les contours de la proposition ?
Alors effectivement, via Internet, nous avions permis à nos concitoyens de s'exprimer sur leur vision du revenu de base. Nous avons eu à peu près 15 000 retours en la matière. Globalement, ils confirment les directions qui étaient préconisées par l'Institut des politiques publiques, à savoir en premier principe l'inconditionnalité, c'est-à-dire le fait que cette expérimentation de revenu de base soit versée sans condition et sans qu'il y ait de besoin de justification particulière, ce qui permettra dans l'expérimentation de mesurer s'il favorise ou pas la reprise d'activité. Deuxième point, c'est la dégressivité, c'est-à-dire que ce revenu de base sera forcément de plus en plus faible, voire inexistant au-delà d'un certain plafond de revenus. Et ensuite, la troisième voie, qui est plébiscitée pratiquement à 88%, c'est le fait que les jeunes y soient inclus, sachant qu'aujourd'hui, ils sont exclus du dispositif RSA et qu'ils sont aujourd'hui la tranche d'âge qui est la plus soumise à la précarité, à la pauvreté.
Et en quoi est-ce que le revenu de base que vous proposez, il se distingue du revenu universel dont on a beaucoup parlé, proposé entre autres par Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle ?
Alors, le revenu universel, par définition, comme il est universel, il est versé à tout le monde. Pour nous, pour ce qui nous concerne, nous faisons le choix de la dégressivité. Ça veut dire qu'au-delà d'un certain montant de revenu, le revenu de base n'est pas versé. Donc ce n'est pas du tout la même approche qu'un revenu qui serait versé à tout le monde. Nous estimons, nous, qu'il doit être concentré sur les gens, évidemment, en très grande précarité, mais qu'il bénéficie aussi, par exemple, à des travailleurs pauvres ou à des gens qui ont du mal à tirer un revenu de leur activité. Je vais vous citer des exemples très simples. J'étais il y a 15 jours en Nord-Gironde où des agriculteurs ont été grêlés après avoir été gelés l'an dernier. Eh bien, ces agriculteurs vont avoir énormément de difficultés pendant pratiquement 2 ans, le temps que leur exploitation se remette en activité. Le revenu de base pourrait être pour eux une réponse immédiate, automatique, qui leur permet de passer ce cap difficile. Nous avons des personnes, je pense à des mamans qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants handicapés. Comme c'est une décision qui leur appartient que cet arrêt de travail, de fait, elles n'ont pas d'allocation chômage, elles n'ont pas non plus de prime de licenciement. Donc elles se trouvent aussi en difficulté. Donc c'est ce type de situation que nous souhaiterions aider. Et de fait, il y a dégressivité, donc ça n'est pas un revenu universel, puisque les gens qui ont un revenu satisfaisant n'ont pas à bénéficier effectivement d'un complément d'allocation.
Et que répondez-vous aux personnes qui jugent ce genre de revenu de mesure comme une incitation à la fainéantise et qui s'inquiètent aussi de son prix ?
Alors, sur la question de l'incitation à la fainéantise, moi je leur réponds simplement que je n'ai pas plus de garantie sur la reprise d'activité que sur l'inactivité tant que je ne l'ai pas testé. Nous, ce qui nous intéresse, on est bien clair, c'est une expérimentation. Comment peut-on parler d'un principe comme le revenu de base sans l'avoir testé ? Nous, ce que nous proposons, et c'est d'ailleurs ce que revendique le président de la République, qui dit qu'il faut favoriser l'expérimentation dans les collectivités locales, et bien précisément, nous lui proposons d'expérimenter le revenu de base, et au bout de au moins 2 ans, puisque c'est ce que propose l'Institut des politiques publiques, au bout de au moins 2 ans, voire 3 ans, que nous puissions évaluer si effectivement c'est un revenu qui permet la liberté, l'émancipation et donc la reprise d'activité, ou si à contrario, il favorise les gens qui préfèrent rester chez eux. Sur la question du coût, aujourd'hui, le pourcentage de personnes qui pourraient bénéficier du RSA et qui ne le sollicitent pas, soit par méconnaissance, par manque d'information ou par culture, ça représente à peu près 34%, c'est aujourd'hui 3 milliards d'euros. que coûtent aujourd'hui les allocations devraient coûter beaucoup plus. Ensuite, sur la question du coût, de quoi parle-t-on ? Il a été question à un certain moment, lors de la campagne de Benoît Hamon, avec un revenu universel, qui était donc complètement autre chose, de 500 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, pour notre expérimentation, de 3 à 7 millions d'euros. Ça n'est pas du tout la même chose, et sur un échantillonnage, évidemment, qui serait à peu près de 20 000 personnes. Donc, de toute façon, les coûts à terme seront largement inférieurs à ce qui avait été envisagé il y a quelques mois. Et parallèlement, regardons le coût économique de ce revenu de base, mais regardons aussi aujourd'hui les coûts sociaux de tous ceux qui restent sur le bord du chemin et qui sont en très grande difficulté avec des problèmes de santé qui génèrent forcément des prises en charge sécurité sociale qui coûtent aussi et avec des tas d'autres problèmes psychologiques et psychiatriques et tout ce qu'on voudra qui génèrent de toute façon des frais au niveau de la santé. Donc quand on parle du coût, pesons tout, regardons ce que coûte le revenu de base, mais regardons aussi ce qui coûte en moins à la société lorsque les gens vont mieux.
Merci Jean-Luc Glaize. Le Conseil d'État annule l'arrêté sur le couvre-feu des mineurs à Béziers. Un arrêté pris en 2014 par le maire et qui interdisait aux mineurs de moins de 13 ans de circuler non accompagnés d'un majeur dans certains quartiers de la ville. Robert Ménard voulait ainsi lutter contre la délinquance, mais le Conseil d'État estimait que la mesure était injustifiée. Retour sur une affaire aux multiples rebondissements judiciaires. Avec Antoine Marette.
En 2014, Robert Ménard est candidat à la mairie de Béziers. Il bénéficie du soutien du Front National et il axe sa campagne sur la sécurité. Une fois élu, il affiche sa volonté de lutter contre la délinquance qui touche en particulier le centre-ville et le quartier de la Devèze. Il prend alors une mesure très symbolique, un arrêté dans lequel il interdit aux jeunes enfants de circuler seuls la nuit pendant les vacances scolaires et le week-end dans ces parties de la ville. La Ligue des droits de l'homme dénonce aussitôt un excès de pouvoir. Elle saisit le tribunal administratif de Montpellier qui donne raison à Robert Ménard, estimant que son arrêté n'est qu'un simple rappel informatif de l'état de droit sans mise en œuvre automatique. La LDH décide de faire appel. Nouvel échec pour l'association. La Cour administrative d'appel de Marseille valide à son tour l'arrêté. Elle considère qu'il est légalement justifié par l'augmentation de la délinquance. Deux décisions de justice qui vont dans le même sens, mais qui viennent donc d'être annulées par le Conseil d'État. Il estime que la ville de Béziers n'a pas été en mesure de justifier l'existence de risques précis liés à la présence de mineurs de moins de 13 ans dans les quartiers et lors des périodes visées par l'arrêté.
Antoine Marette, ils sont épuisés face à l'enchaînement des réformes. Les députés ont du mal à tenir le rythme. Rien que pour la loi Elan étudiée actuellement, plus de 3000 amendements ont été déposés. Cette semaine, les messages de ras-le-bol venus de l'opposition, mais aussi venus de la sont aussi venus de la majorité, au point que le président de l'Assemblée, François Durugy, a admis qu'il y avait un problème, Stéphane Robert.
Ça fait plusieurs semaines déjà, notamment depuis le vote de la loi Asile et Immigration au mois d'avril, que de nombreux députés se plaignent de débats qui s'éternisent, parfois jusque tard dans la nuit, de devoir être présents le week-end pour discuter certains projets de loi. Et aujourd'hui, beaucoup se disent à bout, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, à l'image de ce député constructif, Philippe Vigier.
Quand pendant 15 jours de suite, vous siégez du lundi au dimanche, jour et nuit, est-ce que vous croyez que vous êtes en capacité de faire du bon boulot ? Certainement pas. C'est vrai pour un journaliste, c'est vrai pour un médecin, c'est vrai pour un député, on n'est pas des surhommes.
En cause, les réformes et les textes apposés par le gouvernement qui s'enchaînent à un rythme effréné. Ce qu'a reconnu ce matin le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Il était chez nos confrères de France Info.
Je partage le souhait de beaucoup de députés d'avoir un ordre du jour qui soit plus raisonnable. Ce n'est pas un fonctionnement normal d'une assemblée. Moi j'ai dit, il faut mettre de l'ordre dans l'ordre du jour.
Le gouvernement est donc prié de lever un peu le pied pour ménager les troupes à l'Assemblée, ce qui permettra par la même occasion de ménager aussi les conseillers ministériels qui, nous dit-on, sont également sous pression. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui est responsable de cette situation, les députés le sont également parce qu'ils multiplient les amendements tous azimuts sur les différents projets de loi. On a compté 900 amendements pour la loi Asile-Immigration, 2300 pour la loi Agriculture-Alimentation, et là on en est à 3000 sur la loi Logement, et ça évidemment, examiner des milliers d'amendements, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça concerne les députés d'opposition qui essaient de se faire entendre et d'exister politiquement, mais aussi les députés de la majorité, car un certain nombre d'entre eux ont du mal à trouver leur place. La difficulté est que le groupe En Marche est pléthorique, 313 députés, et que tout le monde ne peut pas se saisir des thématiques les plus intéressantes et les plus gratifiantes. Résultat, ils sont plusieurs dizaines à s'interroger sur leur rôle et leur utilité.
Merci Stéphane Robert. Le temps pour ce jeudi, toujours aussi orageux. Des pluies orageuses sont attendues sur toute la moitié est du pays, avec même quelques épisodes de grêle entre l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais. Les conditions seront plus calmes sur l'ouest et la région parisienne. Les températures maximales comprises entre 17 et 20 degrés sur la Bretagne et le Nord, 20 à 25 partout ailleurs. C'est la fin de ce journal préparé avec Emmanuel Faucillon.